Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique La Minute du CIDFF sur 48 FM. Aujourd'hui, nous allons parler écoféminisme avec Lara. Salut Lara.
Salut.
Alors écoféminisme, on en a entendu parler dernièrement, c'est revenu au goût du jour, notamment avec Sandrine Rousseau, la députée écologiste, mais c'est un terme qui est beaucoup plus ancien. Est-ce que tu peux nous le définir, nous l'expliquer ?
Alors ouais, peut-être dire déjà que quand on emploie ce mot-là, on a souvent différentes réactions. Il y a des gens qui vont parfois penser à des réflexions comme dans le sketch de Tania Dutel qui dit « Ah mais oui, c'est vrai, on m'avait dit qu'il y avait du Roundup dans les tampons ». Ou alors penser à des filles qui font des bains de forêt, des câlins aux arbres, des chants pour la terre-mère, des méditations de l'utérus, etc., etc. Ou même penser à Sandrine Rousseau. Ça laisse un peu songeur. Bref. Eh bien l'écoféminisme, il faut savoir que c'est un peu tout ça. En gros, l'écoféminisme, c'est déjà un mot qui est à l'intersection, bien sûr, du féminisme et de l'écologie. Ce mot-là, on le doit à une Française, donc une écrivaine qui était militante féministe et libertaire dans les années 70, qui s'appelle Françoise d'Aubonne, et qui a sorti un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », où elle parle de l'écoféminisme. En gros, l'écoféminisme, c'est quoi ? C'est remettre en cause une approche dominée de la nature par l'homme, par analogie avec la domination masculine sur les femmes. Je vous réexplique pas sur ce micro, à cette antenne, ce qu'est la domination masculine ni la société patriarcale. Vous pouvez réécouter toutes les minutes du CIDF où on en parle, qui en parle sur différentes thématiques. En gros, pour synthétiser, l'écoféminisme, c'est un mouvement, un courant, qui considère qu'il existe, des similitudes entre exploitation de la nature et oppression des femmes. Qu'en gros, c'est la même chose et que c'est toujours un peu les mêmes gros vilains, que nous sommes dans un système patriarcal de violence et de domination exercé toujours par les mêmes, à savoir très souvent des hommes blancs occidentaux. Voilà. Et qu'il faut arrêter, bien sûr, de vivre, comme dit Sandrine Rousseau, pour la citer, dans un système de prédation et avec un dogme de la croissance à tout craint. Donc ce mouvement, il prend racine dans les années 60 et 70, avec différentes actions qui vont lier droits des femmes et préservation de la nature. On peut citer notamment le mouvement Chipko, des femmes indiennes qui vivent toujours d'ailleurs dans des villages qui ont eu des problèmes de déforestation. Donc ce sont des femmes qui se sont notamment enchaînées aux arbres. C'est parmi les premières qu'on a vues, donc c'était dans les années 60, donc ça commence à dater un petit peu. On peut aussi parler de Rachel Carson, qui est une biologiste américaine et qui va publier un livre qui s'appelle Silent Spring et qui va parler notamment de l'usage des pesticides et de l'impact que ça va avoir sur les oiseaux et sur le corps des femmes et qui, grâce à ce livre-là, va permettre l'interdiction de certains pesticides. Ce mouvement-là, il prend essor aussi il est en lien avec la guerre froide, parce qu'avec tout ce qu'on va voir autour de l'essor du nucléaire, bien sûr. Et donc, du coup, les premiers manifestes écoféministes, ils sont signés dans les années 80. Voilà. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années que ce mot-là, il est dans les clous.
Après, l'écologie est passée un peu au second plan, donc on n'en a plus parlé. Ça revient maintenant.
Ouais. C'est ça. Du fait de l'urgence climatique, en fait, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a de nombreux chercheurs et de nombreuses chercheuses qui se revendiquent de ces mouvements-là, des personnalités politiques, etc., etc. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écoféminisme, t'as différents mouvements, t'as différents courants, et qui veulent pas tous dire la même chose. Alors, je vais pas tous les expliquer là parce que ça serait trop long, mais je vais vous donner les noms et ce qui va se rattacher à ça pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc, on va parler d'un écoféminisme plutôt lié à la spiritualité. Donc, tout ce qu'on disait un petit peu sur le chant des louves, le féminin sacré, les chants d'utérus, etc., etc. On va parler parfois d'écoféminisme éthique, d'écoféminisme de résistance, d'écoféministes matérialistes, donc qui sont plutôt liés du coup à des pensées marxistes, etc., etc. Donc ça donne vraiment une gamme de possibilités qui est assez énorme et qui parfois ne se rencontrent ou ne se retrouvent pas. Mais par contre toujours avec en commun la lutte contre le système patriarcal et capitaliste, la lutte contre la marchandisation du vivant et le dogme de la croissance.
Voilà. Ça reste quand même toujours extrémiste. parce qu'on voit ce que tu nous dis, que de Marx au Champ des Louves, au sauna vaginal, etc., ça reste quand même que quelque chose...
C'est un mouvement assez radical. C'est un mouvement assez radical. Et d'ailleurs, alors juste pour la blague, si jamais vous voulez savoir si vous avez face à vous une écoféministe ou pas, dans les manifestations, guettez les panneaux, lécher des clitos plutôt que le cul de Monsanto ou ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides. Enfin bon, voilà. Très concrètement, c'est des mouvements assez qui sont très engagés. Voilà. Alors après, peut-être juste dire que certains courants, et notamment ceux qui sont plutôt tournés vers la spiritualité, ils peuvent être critiqués car ils relèvent pour certains d'une forme un peu d'essentialisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va réattribuer aux femmes ou aux hommes des qualités qui correspondent à des représentations de genre. Voilà, par exemple, les hommes virils qui consomment, qui mangent de la viande, et les femmes douces, végétariennes, qui prennent soin de tout le monde, voilà, et notamment de notre terre-mère. Voilà. Mais comme le souligne Françoise de Beaune, il ne s'agit pas de dire que les femmes sont plus proches de la nature ou de sa préservation, pas du tout, mais de plutôt interroger qu'est-ce qui est naturel ou pas, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction sociale ou pas. Un petit peu comme tout le reste, en fait. On a encore trop de gens qui, pour parler notamment des caractères ou de ce que vont faire les femmes, vont dire « Ah ben oui, c'est bien naturel, c'est bien comme ça. » Voilà. Et ça fige les comportements, ça enferme tout le monde, et du coup, ça empêche de faire... d'aller de l'avant et de pouvoir proposer autre chose pour changer. Voilà. Ça fait aussi le lien entre parfois l'opposition entre nature et culture qu'on va avoir en Occident. C'est-à-dire il y aurait vraiment des choses naturelles d'un côté et des choses très rationnelles de l'autre. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres sociétés dans le monde qui ne pensent pas les choses comme ça. Pas aussi dichotomiques en tout cas. Voilà. Peut-être pour dire aussi que, du coup, avec ces inquiétudes grandissantes là autour du changement climatique et tout ça, il y a beaucoup de personnes, en fait, et notamment les écoféministes, qui vont s'inquiéter du sort qui va être réservé aux femmes. Parce que, bien sûr, on parle de charge mentale, donc du coup, avec la gestion des tâches domestiques, le soin aux enfants et tout ça, parce qu'on n'en est pas sorti vu qu'on est encore dans une société qui est comme ça. Mais maintenant, on parle aussi de charge morale et éthique. Donc avec la prise en compte de la protection de l'environnement, etc. Et en fait, il y a des études qui ont constaté que la pression sociale pour le recyclage, le tri des déchets, le maternage naturel, l'alimentation végétarienne et biologique, et ben en fait, ça incombe à qui ? Ça incombe aux femmes. Voilà, parce que forcément, comme on leur dit de plus avoir à s'occuper de leur foyer, elles ont en plus ça qui vient s'ajouter. Voilà. L'écoféminisme, il va être aussi intéressant parce que il permet de penser au fait que il faut pas oublier que les personnes les plus fragiles dans le monde face au changement climatique, ce sont les femmes, parce qu'elles composent 75% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et parfois dans des zones géographiques qui vont subir de plein fouet ces changements climatiques. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant et ce mouvement-là, c'est pas qu'un mouvement occidental. Il va y avoir plein d'endroits dans le monde où il y a des femmes qui vont lutter, entre guillemets, pour du coup droit des femmes et environnement à différents endroits de la planète. Et c'est assez intéressant aussi pour repenser le clivage un peu nord-sud et la manière dont on se saisit d'une certaine forme d'empowerment et de prise de pouvoir. Voilà. C'est assez intéressant pour ça. Donc l'écoféminisme, il est intéressant pour repenser la relation entre les genres et en même temps les relations entre les humains et la nature. Alors, on avait des petites chansons prévues à vous passer, mais peut-être qu'on... Je sais pas. On pourrait peut-être écouter La Fièvre.
Voilà, on va écouter un extrait, ouais.
Et donc juste pour dire, parce que j'ai pas grand chose à vous dire de plus, peut-être vous laisser sur une recommandation, sur deux recommandations, du coup. Une recommandation d'un livre qui m'a à moi-même été recommandé par Camille, que je salue ici, parce que c'est vraiment un ouvrage magnifique et que je conseille à tout le monde qui s'intéresse un tant soit peu à ces questions-là et même pour juste prendre le plaisir de lecture. C'est un livre qui s'appelle Le mur invisible de Marlene Haushofer. Et c'est l'histoire d'une femme qui, elle part dans les Alpes et en fait un jour elle se retrouve enfermée derrière un mur invisible et elle peut pas sortir. Et donc c'est vraiment comment elle va faire seule. Et donc ça va la confronter à en même temps une nature nourricière, une nature protectrice, mais en même temps une nature très violente. Et comment elle se débrouille du coup complètement seule, isolée du reste du monde. C'est vraiment très intéressant. Et du coup aussi vous parlez d'un film documentaire qui s'appelle Ni les femmes ni la terre de Marina Allard, Colline Dossi et Lucie Assemat. Du coup qui va parler de femmes d'Amérique du Sud qui luttent. Et en plus là où c'est chouette, il va être diffusé en Lozère par les écrans de Lozère et par l'association La Paillasse dans le cadre d'une semaine autour du 8 mars entre le 6 et le 12 à Saint-Flour-de-Mercoir. Donc guettez l'événement. Et vous pouvez aller le voir si vous voulez vous sensibiliser à ces questions-là et comprendre un petit peu comment ça se passe. Il ne faut pas hésiter.
Mais c'est super. On va se quitter avec trois extraits de chansons. Tu peux nous les...
Alors, il y a la chanson Sangre Viva de Calle Callejera. Excusez-moi pour mon accent espagnol. La chanson Chemical Years de M.I.N. Et Au Diable Dieu de Brigitte Fontaine.
Merci Lara, à bientôt. Mmh.
Au diable Dieu, au diable.